Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Alors, programme très chargé, hein, cette semaine, beaucoup de sujets passionnants. Un an après le carton du FN aux Européennes, les 23 élus Front National font-ils le job? C'est quand même, je rappelle, la première délégation française ici au Parlement européen. Mais que pèse-t-il finalement? Les élections en Espagne, en Pologne, visiblement, les électeurs européens sont en quête de nouveautés. Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Eurodéputée UMP, c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci. Est-ce que vous avez le sentiment que les électeurs européens se détournent des partis politiques traditionnels?
Bon, on le voit d'abord au niveau des États membres. Dans pratiquement tous les États membres, de plus en plus, vous avez des partis alternatifs ou des mouvements alternatifs qui se créent et qui attirent de plus en plus les citoyens européens. Donc au niveau européen, ça n'est, je trouve, que le miroir de ce qui se passe dans les États membres.
D'accord. David Cameron a entamé sa tournée européenne cette semaine pour réformer l'Europe. En tout cas, qu'elle soit plus au goût des Britanniques. C'est une bonne chose pour vous, Rachida Dati, d'organiser un référendum à haut risque comme ça au Royaume-Uni? On sait que vous aimez bien David Cameron.
Oui, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu d'ailleurs dans pas mal de ses propositions, notamment en termes d'immigration, quand c'était au moment des élections européennes. C'est une proposition d'ailleurs qui n'avait pas été reprise. Maintenant, on y arrive au niveau du parti auquel j'appartiens. Mais c'est marrant, quand on parle de référendum, on parle de risques, de complications, mais c'est pas un risque de demander sur des sujets aussi importants l'avis au peuple qu'on nous sommes censés représenter.
Ouais, enfin, il y a 10 ans en France.
Oui, mais je sais. Non, mais attendez, j'y viens justement. Mais au moins l'avantage, moi je trouve que l'avantage de David Cameron, c'est qu'il a fait sa campagne très clairement en disant je donnerai la parole au peuple britannique sur ce sujet. La deuxième chose que moi je vois et que j'entends, j'ai même entendu Laurent Fabius dire la sortie de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, l'Union européenne, c'est très dangereux. On considère que David Cameron est eurosceptique. Il n'est pas eurosceptique. Il est très pro-européen. Il veut rester dans l'Europe. Et la question qu'il souhaite poser dans le référendum, c'est pas de dire nous sommes contre l'Europe, sortons de l'Europe, l'Europe est une catastrophe. Bien au contraire, il dit nous avons besoin de l'Europe, mais nous avons
très pro-européen. On va y revenir. On est dans l'introduction de l'émission, Rachida Dati, mais très pro-européen.
J'étais pas pro-européenne sur par exemple la politique menée par Barroso. Moi à l'époque j'ai contesté Barroso plus d'une fois et je suis une européenne convaincue et je trouve que là-dessus David Cameron en termes d'Europe et de questions européennes, il y a intégré et notamment dans sa campagne un principe de réalité, c'est de dire on a besoin de l'Europe mais pas n'importe comment, pas l'Europe qui s'occupe de tout sur tous les sujets et qui pénalise les peuples européens.
Ouais, c'est là-dessus que Jean-Claude Juncker effectivement a mené sa campagne et qu'il est devenu président de la Commission européenne en disant l'Europe doit s'occuper des grandes choses et doit cesser de s'occuper des petites choses. Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour.
Directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. Alors on le disait avec Rachida Dati, le référendum sur le traité constitutionnel, le non au traité constitutionnel en France, c'était il y a tout juste 10 ans, c'était le 29 mai 2005. Est-ce que vous avez le sentiment que les élus, les élites politiques ont pris conscience? Est-ce qu'il y a un message qui est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en 10 ans?
C'est un peu la difficulté du référendum, c'est qu'à la fin, on sait que les personnes ont répondu à une question, mais on ne sait pas pour quelle raison. Et donc, je ne suis pas certain qu'il y ait eu finalement un message qui était réellement envoyé.
Bon, ben en tout cas, on va en discuter.
Ça a permis, suite au référendum, parce que je me souviens, on était dans l'action à ce moment-là. Rappelez-vous, on part de cette constitution européenne qui était très vaste, très, j'ai trouvé moi plutôt d'ailleurs très intellectuelle, et on est revenu à ce qu'on avait qualifié au départ, parce qu'on a changé le nom, le traité simplifié, puisque Nicolas Sarkozy, au niveau de l'UMP, on avait remis tout le monde autour de la table pour pouvoir rédiger ce traité simplifié, qui est devenu le traité de Lisbonne. Et quand Nicolas Sarkozy préside l'Union européenne, à ce moment-là, il prend son bâton de pèlerin, il va voir tous les pays européens pour essayer de faire adhérer les peuples européens et les pays européens à ce traité de Lisbonne.
Voilà, on va y revenir largement. Je vous sens en forme, Rachida Dati. Vous avez envie de parler, là. On est dans l'introduction de l'émission, là.
Oui, parce que
êtes engagé.
On a déjà fait 40 minutes.
On pense toujours, on vient de faire 40 minutes déjà. On a toujours cru. Les gens disent que Rachida Dati, elle s'ennuie au Parlement européen. C'est la preuve que non. C'est la preuve que non.
Et sur le mandat d'en. Sur la dernière mandature, monsieur Anthony, là.
Non, pardon. Justement, vous avez eu le sentiment qu'on vous envoyait à Guantanamo un petit peu ici au Parlement européen.
Vous savez, je suis pas totalement maso dans ma vie.
En tout cas, vous avez fait un rapport dessus. On va en parler. Oui. Bruxelles qui a également précisé sa politique sur les migrants. On va y revenir avec ses quotas. Alors, sont-ils obligatoires ou pas? En tout cas, ça fait débat. Voilà. Les européennes un an après. Les élections en Espagne et en Pologne. David Cameron qui entame sa tournée européenne. Le référendum sur le traité constitutionnel, c'était il y a 10 ans. Les migrants, Guantanamo. Voilà le programme de 500 millions d'Européens cette semaine pour réagir sur Twitter. Hashtag 500ME. Le 25 mai 2014, le FN est passé de 3 à 23 eurodéputés. Enfin, techniquement 24, mais il y en a une qui est partie. Donc maintenant 23, devenant la première délégation française au Parlement européen. Donc bilan. Un an après, parce que très peu actifs auparavant, ils ont désormais quand même une véritable stratégie de visibilité. Ils soignent leurs statistiques. Pauline Armandet a rencontré Édouard Ferrand, le chef de la délégation FN au Parlement européen.
Nous avons, et le seul parti politique qui l'a fait, déposé une motion de censure, 300 questions écrites, 2000 interventions en plénière, 1200 amendements et 100 propositions de résolution. À 23 députés, je crois qu'il n'y a aucun parti politique qui a été capable de faire la même chose. Ça montre que les députés du Front National ici, ils ne sont pas en vacances. Ils sont insérés dans leur commission, ils font un vrai travail législatif. Et ils font progresser le débat parlementaire.
Voilà, Édouard Ferrand, le chef de la délégation FN au Parlement européen, les eurodéputés FN qui sont passés de 73% d'assiduité au vote en plénière sous la précédente législature à 90% à présent. Qui dit mieux? Tiens, Rachida Dati, j'ai regardé juste avant de rentrer dans le studio, 92% de présence pour Rachida Dati. Alors en un an, Marine Le Pen a pris deux fois plus la parole qu'en cinq ans sous la précédente législature. Mais ce qui change surtout, c'est que les 23 élus FN participent dorénavant aux réunions de travail parlementaires. Alors on a un expert de la question avec nous, c'est Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Vous avez, Charles, travaillé sur un rapport sur l'influence de la France au sein des institutions européennes. Avec 23 élus Front National, que pèse la France aujourd'hui au Parlement européen?
Eh ben, elle pèse la même chose que la Pologne ou l'Espagne, alors qu'on a un tiers d'eurodéputés en plus. Et la raison est assez simple, c'est que ces 23 eurodéputés ne font pas partie d'un groupe politique. Mmh. Et donc, pour faire partie d'un groupe politique, il vous faut 7 pays représentés et 25 eurodéputés. Et tout simplement, ils ne réussissent pas à trouver ces alliés. Et donc,
pourquoi?
Pourquoi? Parce que les visions, en fait, des eurosceptiques de tout poil, des europhobes de tout poil, des extrémistes de tout poil est très différente. Ils n'ont pas la même vision sur...
Bah, Nigel Farage, le britannique du UKIP, le UK Independent Party, il y est bien parvenu, lui,
Mais avec Beppe Grillo du mouvement 5 étoiles en Italie, et si on s'aperçoit que sur la cohésion des votes, donc dans quelle mesure est-ce que groupe vote de la même façon, ils votent pas de la même façon. Oui. Donc, ils font un groupe parce qu'ils ont besoin, pardon, c'est un peu trivial, mais ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pouvoir payer des secrétariats, d'avoir des traductions, de visibilité. Le groupe leur permet. Ils ont aussi quelques postes d'influence, parce que de facto, vous pouvez prétendre à avoir certaines vice-présidences de commission, par exemple. Donc, ils ont des postes à responsabilité. Après, c'est qu'est-ce que vous en faites? Et sur un groupe qui est complètement divisé, exemple Farage, Grillo, l'influence là-dessus est nulle.
Rachida Dati, vos collègues du Front National, honnêtement, ils travaillent? Ou ça, c'est juste des stats?
Non, mais il y a les stats, même si certains disent oui, c'est des stats, c'est technique, c'est quand même du travail, faut arrêter. Moi, je vais pas, enfin, quand vous posez des questions écrites, faut quand même les rédiger, faut quand même regarder. Vous déposez pas n'importe quoi, n'importe comment, vous sous-traitez pas ce type de travail, vous le faites. Enfin, c'est quand même du travail, même les rapports, ne serait-ce qu'un amendement, ça demande, ça tombe pas du ciel. Donc, quand j'entends...
Des lobbyistes.
Oui, enfin, en tout cas, c'est pas mon cas, mais ça peut tomber des lobbyistes. Mais vous savez, lobbyiste, c'est un gros mot en France, mais ça peut être aussi, par exemple, moi je reçois des fédérations, des associations, des particuliers qui peuvent vous éclairer sur des points. Par exemple, moi, sur j'ai voté avec Michel Rivasi ou même sur d'autres sujets, oui, ou avec Eva Joly sur des sujets, par exemple, sur la transparence vis-à-vis de certaines entreprises la semaine dernière au Parlement à Strasbourg, parce que effectivement, il y a des éclairages qu'on obtient par la discussion, par les échanges avec les autres
sur le FN, sur le FN maintenant, vous avez le sentiment qu'ils font le travail ou ils peuvent pas peser, comme le disait Charles,
oui,
ils n'ont pas de groupe politique.
Ils n'ont pas de groupe politique, donc ils peuvent pas faire de compromis, de négociations dans ce qu'on appelle les réunions des présidents, les conférences des présidents. Donc évidemment, ils peuvent pas peser pour faire porter une résolution ou dans les compromis qu'on négocie nous tous les jours et à tous les instants, ce qui nous permet nous d'ailleurs de nous concentrer sur notre travail de parlementaire, sachant que vous avez des instances dans votre groupe qui font le travail de négociation sur des sujets sur lesquels on travaille.
Donc le résultat c'est quoi? C'est-à-dire que ça ne sert à rien, d'élire 23 eurodéputés FN?
Alors ça a été aussi un argument de campagne pour certains. Moi je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il ne faut pas mépriser les Français qui ont élu des députés européens qui sont dans l'enceinte. Il ne faut pas les mépriser. Donc c'est vrai que le fonctionnement, la procédure du Parlement européen noie un peu leur activité ou leur influence. Sauf qu'ils prennent la parole en plénière, ça a un impact, c'est repris. Et ce qui est ici, c'est quand même aussi une caisse de résonance au niveau de la politique nationale. Vous le savez bien, vous êtes français, vous savez très bien que ce que dit ici le Front National a un impact en France quand les propos sont repris.
Alors, il y a d'abord eu la percée considérable des partis.
Par rapport à l'ancienne mandature, ils sont plus nombreux. Donc, quand vous êtes plus nombreux, forcément, ça vous aide à structurer votre travail et à vous répartir les tâches.
Attention, prise 2. Alors, il y a d'abord eu la percée considérable des partis eurosceptiques lors des élections du Parlement européen. C'était donc il y a un an. Puis, en mois de janvier, avec la victoire de Syriza en Grèce, et puis le week-end dernier, les élections en Espagne et en Pologne, deux pays, deux choix radicalement différents. Alors en Espagne, les élections locales ont confirmé la poussée de Podemos, c'est le parti de gauche radicale, la déconfiture, Rachida Dati, du Parti populaire au pouvoir, la remise en cause du bipartisme, et puis en Pologne, l'élection présidentielle a révélé un tout autre verdict. Andrzej Duda, issu de la droite ultra-conservatrice et eurosceptique, l'emporte à la surprise générale, finalement, parce que c'était quand même un inconnu, c'est un proche de Kaczynski, il l'a emporté face au président libéral sortant. Donc, on le disait, Rachida Dati, il y a un vent de nouveauté. Les gens, ils ont besoin de voter, que ce soit à gauche ou à droite, mais ils ont besoin de changement.
En tout cas, ils ont besoin d'être entendus et d'être considérés dans leurs conditions. Et moi, je pense que c'est la question qu'on se pose en disant est-ce que pourquoi les partis extrêmes, notamment l'extrême gauche, ne prend pas en France. Il faut dire aussi que la France, contrairement à l'Espagne ou même la Pologne, on a des amortisseurs sociaux. C'est vrai que les Espagnols, ils ont dégusté, ne serait-ce qu'en taux de chômage chez les jeunes. Donc ça a dégusté fort. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un ras-le-bol en disant la gauche, la droite n'ont pas amélioré leurs conditions de vie. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, ils se reportent sur des mouvements alternatifs. Parce que Podemos, c'est aussi une nébuleuse de beaucoup de petits partis. C'est pas un parti unique. Donc
ils ont juste Chavez en commun.
Oui, voilà, mais c'est aussi un ras-le-bol quand je vois Barcelone qui vote Podemos, et ça veut dire quelque chose, que cette ville a été beaucoup plus tournée sur les touristes, sur l'extérieur, plutôt que sur les Espagnols eux-mêmes.
Alors on va voir du côté de l'Espagne ce qui se dit. Florent Marcellesi, c'est un eurodéputé espagnol du groupe des Verts, et il nous explique la victoire de Podemos dans son pays.
On retrouve surtout beaucoup de citoyens qui, au-delà de l'axe droite-gauche, en ont vraiment marre d'un système corrompu, et surtout d'un parti populaire au pouvoir qui les prend effectivement pour des idiots depuis des années. Ça peut être un exemple pour beaucoup de pays en Europe en disant, voilà, la politique, il ne faut pas la laisser aux mains des hommes et des femmes politiques, mais tous et toutes, en tant que citoyens et citoyennes, nous pouvons être des gens qui faisons de la politique et qui changeons nos villes. Et donc, ce qu'on espère maintenant, c'est que cette vague locale puisse aussi être une vague nationale et peut-être inspirer une vague européenne un jour.
Florent Marcellesi, il veut passer du local au national à l'européen. Charles de Marcy de la Fondation Schuman, quand Florent Marcellesi dit que ça devrait être un exemple.
Mais l'exemple, c'est quoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés en tête ou en seconde position dans chaque parti. À chaque fois, ils étaient plutôt troisième. Ils ont gagné des sièges. Avec ce système de coalition, ils peuvent jouer aussi avec la gauche dans certaines villes, notamment Barcelone et peut-être Madrid, pour obtenir la mairie. Mais on voit que ce n'était pas un plébiscite de Podemos. L'année dernière, aux élections européennes, c'est 5 eurodéputés de Podemos qui aujourd'hui siègent à la GUE, à l'extrême gauche du Parlement européen, sans avoir une activité qui est débordante, ou en tout cas très significative. Donc, qui a un ras-le-bol et que ce soit fait au niveau commun européen, pourquoi pas, mais je pense que les situations sont très différentes. Si vous prenez la Pologne, on a eu le choix entre deux partis de droite. le choix entre deux candidats de droite. Ça n'a rien à voir avec la situation en Espagne où il y a un
ras-le-bol.
Donc
la plateforme civique d'un côté qui appartient au PPE, le Parti Populaire Européen, et de l'autre le mouvement de Kaczynski, Paix et Justice,
oui, qui est une droite qui est beaucoup plus dure, très presque on dirait ultra conservatrice, qui sur les questions notamment sociales, sur les questions qui sont liées à l'avortement, quoi, tout un ensemble de facteurs qui n'ont rien à voir avec le débat qu'on peut avoir en Espagne ou encore en Grèce. Donc sont des situations nationales qui sont différentes. Le seul point commun, c'est qu'on a le sentiment que les réactions à la crise et les efforts qui ont été demandés aux populations, même si la Pologne n'a pas été touchée de façon très structurelle, et c'est même ceux qui ont réussi à traverser la crise de la meilleure façon, mais au risque qu'il y ait une distinction en fait entre les très riches, entre les riches qui ont pu avancer et les pauvres qui ont été toujours
ont été
un peu à la marge.
Impactés, c'est ce qui avait permis d'ailleurs la réélection de Tusk à l'époque.
Exactement.
Hein.
Voilà.
Le non au traité constitutionnel en France, c'était il y a 10 ans. Au départ, c'était Laurent Fabius, qui était un noniste parmi les socialistes, et le même Laurent Fabius qui, là, cette semaine, alors que David Cameron venait en France pour parler notamment de son référendum et de ce qu'il attend de l'Europe et des changements qu'il attend de l'Europe pour que ses compatriotes votent pour un maintien dans l'Union européenne, et bien lui, Laurent Fabius, il dit que c'est pas une bonne chose de tenir un référendum. On verra où est la cohérence. On est avec Rachida Dati, eurodéputée UMP Charles de Marcy de la Fondation Schuman. À tout de suite.
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio. BFM Business Radio, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, avec Rachida Dati, eurodéputé UMP, Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman, peut-être un jour eurodéputé. Je crois que vous avez été assistant parlementaire il y a une dizaine d'années.
Très longtemps,
peut-être que vous serez député européen à votre tour, vous penserez aux copains à ce moment-là.
Vous pourrez comme assistant.
Alors, le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe a eu lieu il y a 10 ans, le 29 mai 2005. À la question « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» Question posée par Jacques Chirac à l'époque, le non a recueilli 54,7% des suffrages exprimés. Alors, est-ce qu'on en a retenu des leçons? Parce que ça a été un choc il y a 10 ans, mais qu'est-ce qui a changé du coup? C'est notamment une des questions que nous avons posées à Patrick Le Yarrick, eurodéputé Front de Gauche, ici au Parlement européen, puis c'est aussi le patron de l'UMA. On l'écoute.
Malheureusement, les chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants européens, à commencer par M. Sarkozy à l'époque, ont marché allègrement sur ce non, en ne tenant aucun compte de l'opinion des gens, et l'ont transformé en traité de Lisbonne, qui comprend exactement, comme disait M. Giscard d'Estaing, à la virgule près, les mêmes mots et les mêmes préceptes. Et le bilan de ceci, c'est que on est encore plus dans des difficultés, dans une crise aujourd'hui, avec plus de chômage, plus de pauvreté, plus de difficultés pour les jeunes qu'on ne l'était il y a 10 ans. Donc ils n'ont pas rendu service aux citoyennes et aux citoyens, et ils n'ont pas rendu service non plus à l'idée européenne.
Voilà, Patrick Le Yarrick, eurodéputé Front de Gauche. Rachida Dati, pour vous, on est allé regarder un petit peu dans les archives. En 2010, vous disiez, le traité de Lisbonne serait une véritable boîte à outils, selon vous, qui aurait permis de réconcilier les citoyens avec l'Europe. Vous le pensez toujours?
Oui, parce que Patrick Le Yarrick mélange tout le sujet. Il dit oui, il y a plus de chômage, plus de crise. Ça n'a rien à voir. C'est les politiques que vous menez et la boîte à outils, ce sont quand même deux choses différentes. Le traité de Lisbonne a été recentré sur des compétences essentielles pour les institutions européennes. Regardez depuis pratiquement même un peu avant 2012, on n'a jamais autant parlé de l'Europe. Jamais avant, vous faisiez une campagne nationale en évoquant l'Europe. Ça n'intéressait personne. Ouais. Là, on n'a jamais autant parlé de l'Europe.
Grâce à qui?
Qui
parle de l'Europe aujourd'hui? C'est le FN.
La Fondation Schuman. La Fondation Schuman.
Non, mais même, rappelez-vous, donc, on a quand même essayé de recentrer sur les compétences en donnant un peu plus de pouvoir quand même au Parlement européen. Sur les modes de décision, on a quand même changé des modes de décision, notamment en termes de sécurité et de justice. Ça a été aussi une avancée. Avant, tout était à l'unanimité. Il y a des coopérations possible sans aller si tout le monde n'est pas d'accord, on peut quand même avancer à quelques États. Donc ce traité permet de faire des choses si on a envie.
Charles de Marcy, Rachida Dati va bondir quand je dis ça, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a 10 ans, avec le non français au référendum sur le traité constitutionnel, ça a été un petit peu le début de la fin de l'influence française au niveau européen? Parce qu'il y a eu les années Sarkozy où il y a eu quand même un petit peu d'éclat, on pense
la
à la Géorgie,
française, elle
on, pense
été,
à la, on pense à la Géorgie, etc. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la France, à Bruxelles, plus personne n'en parle.
La France est au recul, mais c'est la conséquence du résultat des élections, c'est la conséquence aussi d'un manque parfois, désolé, de vision aussi politique nationale et de dire sur quoi est-ce qu'on va essayer d'impacter, sur quoi est-ce qu'on concentre nos forces, même si on a moins de forces, parce qu'il y a l'élargissement, parce qu'on est moins nombreux, on est moins nombreux à être compétents, sur quoi est-ce qu'on concentre nos forces. Aujourd'hui, il n'y a pas un message, ou même en tant que Fondation Remarchement, on dit, ah là, il y a vraiment trois dossiers sur lesquels on va tout miser parce que c'est important pour la France, ça a du sens, et puis il y a une voix française qui porte et un message politique. Alors qu'il y a d'autres pays où très clairement, et ça se voit dans le programme de travail de la Commission européenne, où il y a une vision. Alors, ça peut être moins légiféré, ça peut être davantage de rapatriement de compétences au niveau national, ça peut être protéger davantage nos frontières, parce que tout seul, on n'y arrive pas si on pense à l'Italie. Donc, il y a comme ça des messages qui sont un peu nationaux. Et là, force est de constater qu'au niveau français, c'est aujourd'hui un peu limité.
Mais moi, quand vous parlez d'influence française, d'ailleurs, moi, je trouve que le sens, ça n'a pas véritablement de sens. Quand je vois, par exemple, Bernard Cazeneuve, qui est sur le PNR européen, sur la lutte contre le terrorisme.
Le PNR, c'est le passage Name Record, c'est les fichiers avec toutes les informations sur les passagers des vols.
Et qui permet d'avoir une traçabilité sur les gens qui voyagent, et notamment en dehors de l'Union Européenne, et qui reviennent sur le sol européen. Donc Cazeneuve est très clair sur la lutte contre le terrorisme, sur des actions précises. Mais vous avez les députés socialistes français, ici, au Parlement européen, qui votent contre leur formation politique. Donc comment voulez-vous avoir une influence française quand vous avez des conflits de politique au niveau national qui existent aujourd'hui au Parlement européen? Donc on a une influence limitée.
Alors justement, si on parle de cohérence, je cite Laurent Fabius, les Britanniques ont adhéré à un club de football, on peut pas dire au milieu du match, maintenant on va jouer au rugby, c'est l'un ou l'autre. Voilà pour cette citation de Laurent Fabius à propos de David Cameron. David Cameron qui a donc déposé cette semaine au Parlement britannique le projet de loi visant à organiser un référendum d'ici à la fin 2017 sur l'appartenance de son pays au club des 28 qui pourrait se retrouver à 27. Et puis dans la foulée, il a entamé cette semaine une tournée européenne pour défendre son plan de réforme de l'UE avec pour enjeu final une possible sortie de l'UE, le Brexit. Alors, il aspire notamment à rapatrier certains pouvoirs au nom de la souveraineté du Parlement britannique et à durcir les conditions d'accès aux aides sociale pour les ressortissants de l'UE. Vous êtes d'accord avec ça, Rachida Dati?
Mais je comprends pas.
C'est légitime.
Oui, mais je comprends pas la citation de Laurent Fabius. Cameron ne demande pas à changer du foot au rugby ou à autre chose. Il demande à ce qu'on joue mieux au foot, c'est-à-dire de se concentrer, de marquer des buts. Voilà. Il dit, ben voilà, on joue au foot. Je suis d'accord, je suis adhérent au club de foot, mais moi, je veux que les joueurs marquent des buts.
Mais en même temps, si on parle de football, on a l'impression qu'il ne veut que des Anglais dans son équipe. Or, ce qui fait le succès de grands clubs comme Chelsea ou même Arsenal, c'est que justement, ils ont beaucoup de joueurs étrangers.
Oui,
et donc,
mais
c'est bien. Et même parfois, des joueurs des pays de l'Est. On pense à Tchèche, le gardien, ou Petro Tchèque, je sais pas comment on dit.
Petro
Tchèque. Il ne veut pas avoir que des Anglais. Il dit que ceux qui arrivent sans rien et les derniers n'aient pas les mêmes avantages que finalement les sujets britanniques. Enfin, il y a rien de d'incohérent là-dedans, et que une fois qu'ils sont installés, qu'ils ont un travail, que effectivement ils aient, parce que c'est pour les aides sociales autres, c'est sur une durée limitée. C'est pas de manière définitive. C'est pas le Front National, hein. Donc il n'est pas sur la préférence nationale. Il dit que pendant un certain temps, que ces citoyens-là qui arrivent n'est pas les mêmes droits que les autres.
Toutes les études démontrent, et on en parle souvent dans cette émission, que cette immigration rapporte plus d'argent dans les caisses britanniques qu'elle n'en coûte.
Vous faites des citations, alors la mienne est peut-être moins glorieuse, mais rappelez-vous la citation du père de Leonarda quand il débarque en France. Il dit, j'ai fait une petite étude, il fait mieux que l'OCDE et que Robert Schuman, parce qu'il dit, j'ai fait une petite étude et le pays où ça rapporte plus en prestations sociales, c'est la France, donc je suis venu en France. Donc voilà, donc je peux aussi vous citer ça. Hein.
D'accord.
Mais lutter contre le tourisme social, ça sera, à mon avis, incontournable pour la Commission européenne.
Bon.
Et ça va.
Donc ça, c'est pas
sur le tourisme social, si, c'est pas être anti-européen.
Bon, les pronostics, David Cameron, il va arriver à ses fins ou pas? Là, c'est déjà intéressant. Il va aller dans les 27 capitales. Déjà, c'est la bonne stratégie, c'est la bonne approche.
Enfin,
c'est-à-dire que ça montre qu'il comprend l'Europe. Oui, enfin, il est obligé, mais Ils l'ont pas. Ils
il est obligé
pas
parce
tous,
que quand il les voit les 27 autres en même temps, le courant est assez glacial. Mmh. Donc à mon avis, il est obligé un peu de diviser pour mieux régner parce que s'il commence à les prendre en bloc, ça va être
donc c'est ça
compliqué.
Sa stratégie, c'est diviser pour mieux régner.
Il faut qu'il trouve, il faut qu'il fasse une coalition.
Les européens sont assez d'accord avec sa vision. C'est pour ça que je pense que beaucoup d'hommes politiques, et notamment d'hommes politiques français, déforment sa vision de l'Europe en disant il ne veut plus de l'Europe, il est contre l'Europe, il est anti-européen. Ça n'est pas le cas du tout. Lui, il souhaite quand même que le Royaume-Uni reste dans l'Europe. Mais il souhaite effectivement que les choses changent, qu'on ait des priorités, des objectifs précis, et que l'Europe rapporte. Et c'est pas une Europe aux dépens des citoyens européens.
Le plan d'immigration a été présenté par la Commission européenne cette semaine. Et ce qui a retenu toute l'attention, c'est évidemment la répartition des migrants. 40 000 migrants syriens, érythréens venus de Grèce et d'Italie à travers les pays européens, avec 17% de ces 40 000 qui reviendraient à la France. On est autour de 6 700 personnes. On va également parler de la radicalisation, du terrorisme et de Guantanamo. Ce sont des dossiers sur lesquels Rachida Dati travaille ici au Parlement européen. On écoute le journal. À tout de suite.
500 millions d'Européens. L'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio. BFM Business, 500 millions d'Européens. Avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Avec nous en studio, Rachida Dati, eurodéputé UMP, Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman. On va parler des migrants, parce que le plan d'immigration a été présenté par la Commission européenne cette semaine. Alors, ce qui a retenu toute l'attention, c'est la répartition entre les États membres de 40 000 demandeurs d'asile arrivés depuis là, le 15 avril, en Grèce et en Italie. 40 000 Syriens et Érythréens seront relocalisés dans 23 pays membres, selon un système de répartition imaginé par la Commission européenne. On ne parle plus de quotas, attention, un quota verboten maintenant. La France serait censée en accueillir 4051 venant d'Italie, 2701 venant de Grèce. Ça représente 17% des 40 000, 17% du fardeau. C'est un terme qu'on a régulièrement entendu ces derniers temps. On va également parler de la lutte contre le terrorisme, parce que certains d'ailleurs font le lien entre ces migrants et il y aurait certains terroristes parmi eux. Donc bon, on va parler aussi de ça et puis on va parler de Guantanamo, parce que Rachida Dati s'est rendue à avec quatre autres députés européens, c'était quoi, en mois de décembre?
Oui.
Voilà, donc il y a six mois, vous êtes rendu à Guantanamo. Vous allez nous raconter ça. Les migrants, le terrorisme et Guantanamo. Voilà le programme de cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Donc on l'a dit, la Commission européenne qui a précisé son plan de répartition et de partage des responsabilités. Nous avons, avec Pauline Armandet, recueilli l'impression de Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste, spécialiste des questions de migration. On l'écoute.
Cette semaine, la Commission a approfondi ce plan, donné des objectifs chiffrés, indiqué quelques pistes de travail, s'agissant donc de la répartition des personnes, dont je rappelle que ce ne sont pas tous les migrants qui arrivent ou qui devraient arriver en Europe, mais des personnes qui sont en besoin de protection internationale. Je trouve que l'Union européenne fait, en tout cas la Commission à ce stade, le Parlement à ce stade, font preuve de courage.
Alors c'est vrai, hein, comme le dit Sylvie Guillaume, Rachida Dati, honnêtement, le Parlement, la Commission, ils font preuve de courage parce qu'ils provoquent. Ils savent que si on est sur une base volontaire et uniquement volontaire, il ne se passe rien. Il n'y a pas de solidarité entre les 28 et c'est les pays qui sont en première ligne, donc la Grèce, l'Italie, etc., qui doivent gérer tout l'effort. Or, il y a eu quand même, ça a été un peu une grande n'importe quoi, parce que il y a eu des messages très divergents d'une capitale à l'autre, et il y a eu aussi beaucoup de confusion sur le terme de quota. Est-ce que c'est obligatoire, n'est-ce pas obligatoire, etc. En début, on pensait que la France était favorable à un système de quota, et puis ensuite, Manuel Valls s'est montré hostile à un système de quota. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il faut des quotas ou c'est une atteinte à la souveraineté?
Manuel Valls, il fait de la politique politicienne. Enfin, ça a toujours été. Enfin, moi, je trouve que Manuel Valls a toujours été sur ces sujets-là. Ou totalement incompétent, on l'a vu comme ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve a repris les choses en main totalement différemment, avec beaucoup plus d'efficacité. Et sur ces sujets d'immigration, franchement, il a toujours été à côté de la plaque. Et là, ça continue. Donc le sujet aujourd'hui, on peut dire quota, pas quota, imposé, pas imposé, mais on fait quoi? C'est-à-dire que les agents de Frontex, ils sont les croque-morts de la Méditerranée, et on laisse faire? On a aussi une responsabilité dans ce qui s'est passé en Libye. On a une responsabilité dans ce qui se passe en Irak, dans ce qui se passe en Syrie. Nous avons, l'Europe, une responsabilité dans cette instabilité régionale. C'est pour ça que moi, quand j'entends certains qui sont planqués aujourd'hui, qui ont appelé à la guerre en Libye, qui ont appelé à la guerre en Syrie, qui ont appelé... Enfin, aujourd'hui, où sont-ils? J'en appelle à ces intellectuels, à ces à nos experts qui ont voulu ce qui s'est passé dans cette région. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'ils puissent aussi nous soutenir dans ces positions qui ne sont pas des positions simples. Moi, j'ai soutenu les propositions de la Commission. Bernard Cazeneuve avait même dit que la Commission s'est inspirée des propositions faites par le ministère de l'Intérieur. Donc, aujourd'hui, il faut arrêter de tourner autour...
Donc, vous, les quotas, vous trouvez que c'est une bonne chose?
De toute façon, appelons ça comme on veut. Mais il faut...
Bon, une clé de répartition, pays par pays, c'est bien.
Et la deuxième
Elle
chose qu'on oublie...
Obligatoire.
Mais la deuxième chose qu'on devrait dire, c'est d'abord de modifier le règlement de Dublin. Aujourd'hui, nous avons un texte européen qui dit que la demande d'asile doit être faite là où le migrant arrive.
Donc
aujourd'hui,
l'Italie
ils
n'arrivent
pas par la Suède ou par en haut. Ils arrivent forcément. Et aujourd'hui, 80% des migrants sont accueillis dans 5 pays. Voilà, tous les pays du pourtour méditerranéen. Donc déjà, si on pouvait assouplir ce règlement ou le changer, nous aurions une répartition de la charge différemment. Mais on ne peut pas se contenter d'être que la Méditerranée soit un cimetière, que Frontex soit les croque-morts et qu'on attende que ça se passe. Parce que ça ne se passera pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, alors certains disent oui, mais il y a beaucoup de migrants là-dedans qui sont des migrants économiques. Mais il y a des critères. Donc tout le monde n'obtiendra pas le statut de réfugié politique ou n'obtiendra pas l'asile. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça dans le cadre de mon rapport, d'ailleurs j'ai demandé, parce que certains nous opposent en disant il n'y a pas que des Syriens, des Érythréens, il y a beaucoup de migrants d'Afrique subsaharienne. Mais vous avez vu l'état de l'Afrique, comment elle explose avec les fondamentalistes, les extrémistes, le salafisme qui s'implante de plus en plus. Donc on a aussi, nous, une responsabilité à demander. Nous aurions quelques comptes à demander à quelques pays du Golfe sur leur politique menée en Afrique subsaharienne.
Alors peut-être que lui, Charles, ça lui a pas échappé. Moi, j'ai toujours pas compris, parce que je vous ai demandé les quotas, enfin, quel que soit le terme et la clé de répartition, vous avez dit oui. Quand je vous ai demandé si vous souhaitiez qu'il soit obligatoire ou pas, vous êtes parti sur Dublin. Mais attendez, donc vous... Obligatoire, ça vous dérange pas?
Mais obligatoire, ça nous dérange pas, parce qu'aujourd'hui, la France a déjà pas mal de la charge. Et vous savez que le quota obligatoire...
Oui, mais on a eu le sentiment que la France a commencé à dire non. Au départ, la France était favorable à des quotas, jusqu'à ce que les quotas, parce qu'ils se disaient, nous, on fait déjà suffisamment de boulot, et donc les quotas, ça concernera surtout les autres, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la France assumait 11% du travail, et que la proposition de quota de la Commission européenne consistait à donner 14% dans la clé de répartition à la France. Donc, mais ça faisait 3 points en plus. Et là, la France, du coup, a dit, non, attendez.
Mais il y a des critères, le PIB, le chômage,
et
il y a
en
des critères
compte de tout ça.
Voilà, donc faut arrêter de penser que ça ne se fera pas, ça se fera.
Charles de Marcy,
ça a été super mal vendu.
Par
la commission, c'était super mal vendu. On arrivait avec, ça va être des quotas, ça va être obligatoire, c'est boum, vous allez vous prendre X milliers de personnes. Comment vous allez le gérer sur place, c'est pas notre problème, mais on répond en fait à la solidarité nécessaire que vous voulez pas faire de façon spontanée. Évidemment qu'il faut avoir une solidarité, ça va de soi, mais derrière, il fallait avoir quand même une certaine pédagogie de la part de la commission et pas rentrer en frontal. Et on s'est aperçu en France, mais c'est aussi le cas en Belgique, je sais pas si vous avez vu les déclarations du ministre de l'Intérieur belge, qui pareil dit, on assume déjà une partie de la charge. On nous demande de faire davantage sans regarder ce qu'on fait déjà. Donc cette clé de répartition, elle est insatisfaisante. Et en fait, depuis des jours, ce qu'on voit, c'est des ministres au niveau national qui parlent à leur opinion publique nationale. Et je pense qu'il y avait un gros déficit de préparation, d'explication. C'est pas normal que mercredi, le commissaire en charge justement de ces questions migratoires revienne expliquer finalement un peu en deuxième session.
Au départ, il a rien expliqué du tout.
Parce que justement, il avait rien expliqué du tout. Et donc, c'était mal vendu au niveau européen. Il n'y a pas eu de suivi de la part des partis politiques ni à Bruxelles, ni au niveau des États membres, et on s'est aperçu finalement que chaque ministre de l'Intérieur a essayé de gérer en fonction des sondages ou d'une vision politique nationale, et qu'il n'y a pas eu de vision collective.
D'ailleurs, il l'avait très bien expliqué sur une radio de manière très responsable. Et Emmanuel Valls, qui dénonce le populisme à tour de bras, il a fait exactement du populisme en expliquant très mal la proposition de la Commission.
Et puis il y a un autre point, je conclue juste là-dessus, c'est qu'on parle de migrants alors qu'on devrait peut-être se concentrer sur la question de demandeurs d'asile. Mmh. Et on a un peu l'impression qu'on a parlé migration et que c'était surtout migration économique, regroupement familial, ceux qui viennent de conflits, ceux qui viennent dans des bateaux, ceux qui viennent de je sais pas comment, et on a un petit peu tout mélangé. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin de clarification.
Alors Rachida Dati, vous avez été nommée, c'était au mois de février, rapporteur donc au Parlement européen sur la prévention de la radicalisation et du recrutement des Européens par les organisations terroristes. Du coup, vous allez vraiment arriver à un résultat qui va changer la donne, ou c'est un rapport au Parlement européen ?
Changer la donne, ça serait prétentieux, je dis pas ambitieux, mais en tout cas prétentieux de dire ça, mais en tous les cas d'essayer d'avancer sur ce point. Aujourd'hui, nous sommes à près de 500 jeunes Européens qui ont rejoint des organisations terroristes sous diverses formes. Et moi, je suis allée dans d'autres pays européens rencontrer les responsables politiques, des experts, mais aussi les ministères de la Justice, les ministères de l'Intérieur. Et parler de la France, mais nous sommes le pays le plus naïf sur ces questions. Nous sommes très, 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 très en retard par rapport à d'autres pays. Je pense au Danemark, à la Belgique, l'Angleterre. Parce qu'on n'a pas du tout pris la mesure de la gravité, de la dangerosité de ces jeunes qui sont radicalisés. Et moi, je suis allée voir à Fresnes, à la prison de Fresnes, une expérimentation qui a failli être mise à mal. Et malheureusement et heureusement...
Alors, quelle expérimentation ? C'est quand ils mettent à l'écart les détenus, les plus radicaux ?
Ils les mettent pas... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des cellules isolées.
D'accord.
Ils les mettent dans des quartiers un peu à part.
C'est ça.
Sans les isoler vraiment. Mais ils sont dans la détection, dans le suivi, dans le signalement. Ils se servent aussi des autres détenus.
Mais est-ce qu'on s'est pas rendu compte qu'en mettant les plus radicaux ensemble, même dans une aile ensemble, du coup, ils se radicalisaient encore plus entre eux?
Non, je vais vous dire, moi j'étais favorable, par exemple, de dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir des prisons ou des quartiers où nous mettrions ce type de détenus qui sont très prosélytes et très dangereux? Parce que la radicalisation, constat unanime, partout en Europe, et France compris, Internet et la prison. C'est la majorité de la radicalisation. Donc sur la prison, il faut absolument avoir un programme très important, et l'expérience qui est à Fresnes est vraiment... D'ailleurs, le Canada et d'autres pays européens s'inspirent de ce qui se passe à Fresnes. Il y a un directeur de prison, Monsieur Scotto, qui est formidable. Et Internet est là...
Alors justement, Internet, vous envisagez de poursuivre... vous souhaiteriez que l'on puisse poursuivre les géants d'Internet pour complicité d'apologie du terrorisme. Là, on parle de Google, de Twitter... Facebook.
Parce que je vois là les deux jeunes là qui sont morts là dans les opérations suicides, ils continuaient à raconter leur vie sur Twitter, sur Internet, ils disaient comment ça se passait, c'était très bien. Enfin, on a l'impression que c'était le Club Med humanitaire, alors qu'ils menaient des opérations terroristes et kamikazes, ils en sont morts. Donc sur les géants d'Internet, à un moment donné, et d'ailleurs Cazeneuve l'avait évoqué quand il était parti aux États-Unis, en disant ils ont une responsabilité. On ne peut pas se contenter de géants d'Internet qui deviennent des caisses de résonance, des tuyaux, des diffuseurs de vidéos, de sites qui promeuvent le terrorisme, la haine, la radicalisation. Donc, où ils prennent leurs responsabilités, et c'est ce que fait d'ailleurs l'Angleterre, qui commence à travailler là-dessus, d'avoir un contre-discours qui soit référencé avant ces sites, et de pouvoir évidemment anéantir les sites terroristes, radicaux, intégristes, ou sinon, dans ce cas-là, on poursuit les géants d'Internet, on engage leur responsabilité pénale. Il y a une qualification pénale qui existe, qui est complicité d'apologie du terrorisme, en ayant aidé par tout moyen, et notamment par les sites Internet.
Mais la solution aujourd'hui, c'est le PNR européen. C'est
un outil parmi d'autres, parce que le PNR n'aurait pas empêché les attentats du mois de janvier à Paris. Mais ça permet d'avoir une traçabilité sur, par exemple, la compagne de Koulibaly qui est partie en Syrie via l'Espagne et via
la Turquie.
Ça, c'est parce qu'on nous avons eu une coordination, parce que nous avons un bon travail du service de renseignement, notamment entre la France et l'Espagne, qui a permis de savoir qu'elle était passée par l'Espagne. Donc, si on pouvait avoir un PNR européen pour faciliter le travail, notamment, de nos services de renseignement. Mais aujourd'hui, par exemple, quand nous sommes européens, quand vous voyagez en dehors de l'Union européenne et que vous revenez, vous ne montrez pas votre papier d'identité, vous exhibez votre passeport et vous passez. Nous, on souhaiterait, par exemple, qu'il y ait maintenant un contrôle systématique quand vous revenez dans l'Union européenne, que votre papier, votre passeport soit contrôlé et qu'on vérifie que vous ne soyez pas surveillé, signalé, recherché à tout moment.
Charles de Marseillais.
Sur le PNR, oui, je pense qu'évidemment que c'est nécessaire. On a besoin de savoir juste comment ça tourne. La question, c'est comment est-ce que les données sont utilisées,
oui, ça, je suis d'accord.
Par qui, quelle
moi,
autorité,
c'est la réserve que
combien
je
de temps. Il y a beaucoup de questions qui sont derrière, et c'est la raison pour laquelle c'est bloqué au Parlement européen.
C'est le point de blocage, évidemment.
C'est le point de blocage, mais certains en font un point de blocage pour ne pas avoir le PNR européen, et d'autres, dont d'ailleurs des Verts avec lesquels je travaille aussi sur ce sujet, c'est-à-dire que fait-on de ces données? Je vous donne un exemple type. Vous appelez Anthony Nogues et il y a quelqu'un qui est recherché qui s'appelle Nog. Non, c'est le cas pratique.
Ouais.
Vous partez, et la personne est signalée ou surveillée et à un moment donné, vos données, on a un problème. Il faudrait quand même que vous soyez informé que votre donnée était stockée, combien de temps, ce qu'on en a fait, qui l'a utilisé. Donc c'est aussi un moyen de protéger vos données, votre vie personnelle, votre vie privée, mais aussi de savoir ce qu'on en fait. Donc la protection des données, c'est un élément majeur sur lequel effectivement on doit absolument être carré de donner une procédure sur l'utilisation de ces données personnelles.
Bon, Barack Obama, il a promis de fermer Guantanamo. Vous y êtes rendu, Rachida Dati, avec une délégation d'eurodéputés. C'était donc au mois de décembre. C'était à l'invitation des autorités américaines.
À l'invitation du département d'État et du ministre américain de la Justice avec lequel j'avais gardé de bonnes relations.
Donc quel est l'intérêt pour vous d'aller là-bas?
D'abord,
et pour les Américains de vous recevoir?
Les Américains, ça fait des années qu'ils demandent à l'Europe de les aider à fermer Guantanamo en accueillant des personnes détenues à Guantanamo. Donc l'intérêt pour des parlementaires européens, c'est d'aller voir sur place, notamment les conditions de détention, mais aussi les profils des détenus et de savoir ce qui s'est passé depuis 2002 quand ce centre a été ouvert. Nous avons eu pas loin de 1000 détenus, c'était 900 et quelques détenus qui sont passés par Guantanamo. Aujourd'hui, il y en a à peine une centaine, mais il faut savoir qu'il y a eu une seule personne condamnée à ce jour. Il y en a 6 qui sont encore en phase précontentieuse qui sont liées aux attentats du 11 septembre. Tous les autres, zéro charge. C'est pas bénéfice du doute, zéro charge. Simplement, juridiquement, ils ne veulent pas dire qu'ils sont innocents, ils disent qu'ils sont transférables, ne serait-ce que pour, je pense, des problèmes de recours judiciaires. Mais il n'y a aucun... Moi, j'ai été très choquée par les conditions de détention, non pas sur... Moi, je suis quelqu'un de très répressif, de très ferme, surtout que sur des faits extrêmement graves. Mais là, il n'y a pas de distinguo entre quelqu'un qui est en phase judiciaire, contre lesquels il y a quand même des éléments, et ceux contre lesquels il n'y a rien. Ils ont les mêmes conditions de détention à peu de choses près. Donc, la difficulté, c'est...
C'est juste des gens mis hors d'état de nuire.
C'est tout. Ils sont retenus, détenus dans des conditions extrêmement dures, et pas de programme de déradicalisation. Parce que certains se sont quand même radicalisés en cours de route. Pas de programme de formation, d'insertion ou de réinsertion. Donc ce sont des gens qui sont psychologiquement, mentalement laissés à l'abandon le plus total. Donc, et d'ailleurs, moi j'ai rencontré également des ONG qui me disaient que les personnes qui ont été transférées et libérées, pour certains ça allait jusqu'à 30%, pour d'autres c'est 20%, il y a après une discussion sur le chiffre, en taux de récidive. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont libérés, là ils se sont radicalisés et là ils commettent des actes terroristes. Et vous avez des pays qui ne veulent pas les accueillir, y compris les pays d'origine. Donc, ce que demandent les États-Unis, c'est que l'Europe puisse en accueillir certains, alors même que les Américains ne veulent pas en avoir sur leur territoire. Donc moi, ce que je leur ai dit, c'est très compliqué de dire aux Européens « prenez ce type de détenus que les États-Unis considèrent non coupables, mais dont ils ne veulent pas ». Je trouve que c'est quand même un peu moyen. Donc là, il y en a certains qui sont partis en Amérique latine, il y en a certains qui sont arrivés en Europe, en Suède, je crois, de mémoire, en Géorgie également. Mais c'est un vrai sujet pour les détenus qui restent, qui sont aujourd'hui considérés comme transférables et qui sont toujours détenus.
Voilà, merci beaucoup Rachida Dati. Vous restez avec nous, ainsi que Charles, pour la revue de presse. Pauline Armandet va faire son entrée dans le studio avec, on va parler notamment, elle va revenir sur cette gifle à Orban, donné par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. On va parler un peu du Danemark, vers la fin de l'argent liquide au Danemark, c'est étonnant. Ou encore la SNCB, alors vous aurez corrigé par vous-même, la SNCF en France, et puis il y a la SNCB en Belgique, qui est attaquée en justice pour ses grèves. Testachat, qui est l'association de protection des consommateurs ici en Belgique, qui voudrait que les passagers récupèrent chacun 35 euros de dédommagement à cause des nombreux jours de grève ici en Belgique. On en parle tout de suite avec Pauline.
500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio.
500 millions d'Européens sur BFM Business Radio. La revue de presse.
La revue de presse, toujours ici à Bruxelles avec Rachida Dati, eurodéputé UMP Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman. C'est le directeur du grand bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles.
C'est de la provocation.
Et Pauline Armandet nous a rejoint. Bonjour Pauline.
Bonjour Yann-Anthony.
Pour votre revue de presse. Tiens, on va commencer avec cette gifle. C'est un sacré quand même, Jean-Claude Juncker. Enfin, la gifle, il a surtout traité de dictateur. Mais cette gifle à Orban, donc Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui ridiculise l'Union européenne encore davantage selon un portail d'information roumain.
Oui, et en effet, donc selon Contributor, qui a analysé le geste du président de la Commission européenne, je cite, il y a deux hypothèses. Alors la première est que Juncker estime sérieusement qu'Orban est un dictateur qui mérite d'être giflé en public. À ce moment-là, il doit expliquer ce qu'un dictateur peut bien faire parmi les chefs de gouvernement de l'UE. Deuxième hypothèse, Juncker s'est lancé dans une plaisanterie en l'air et par là même ridiculisé toutes les critiques adressées au régime d'Orban à ce jour.
Oui, alors juste pour rappel, c'était à Riga, c'était la semaine dernière, lors d'un sommet sur le partenariat oriental, et en recevant tout le monde devant les drapeaux, devant les photographes, voilà, il serre la main, et normalement il n'y a pas de micro, donc on n'est pas supposé entendre ce qu'ils disent, et Jean-Claude Juncker il s'est un petit peu lâché, et donc il a fait « Salut le dictateur » en voyant Orban arriver. Ça vous choque, vous, Rachida Dati? Vous connaissez bien Jean-Claude Juncker depuis quelques années. On sait que il peut souvent être d'humeur joyeuse. Enfin là, il était quand même 8h30 du matin.
Jean-Claude Juncker, d'abord, c'est quelqu'un de très intelligent et très compétent et très politique. Ça, c'est quand même, c'est pas un tocard, quoi. Mais je pense qu'il a fait ça sur le ton de l'humour. Je pense qu'il savait pas que les propos allaient être entendus ou repris, et il lui met pas une gifle quand même. Enfin, moi j'ai vu les images.
Il a mis un solide taquet. Moi ça m'aurait pas plu, honnêtement.
Mais il lui tapote la joue quand même.
Ouais. honnêtement, si vous me tapotez, si vous me tapotez la joue comme ça, moi ça va pas me brancher. Juncker, homme le plus puissant d'Europe, et Merkel, la femme la plus puissante du monde, selon Forbes, Pauline.
Et elle conserve ce titre pour la 5e année consécutive. Angela Merkel a remporté en décembre 2014 un troisième mandat de 4 ans à la tête de l'économie la plus dynamique d'Europe, faisant d'elle la plus ancienne élue en poste de l'Union européenne, explique le magazine économique américain Forbes, qui rappelle qu'elle est au cœur des efforts pour essayer d'aider la Grèce à relancer son économie.
Voilà, Angela Merkel, Charles, Angela Merkel,
non seulement elle demande des efforts aux Allemands, elle réussit à mettre une certaine politique, elle est plutôt diabolisée par ses partenaires européens et ça l'empêche pas d'être élue et d'être élue la femme la plus puissante.
Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne faisait pas partie du comité de sélection de Forbes Magazine.
Non, ni d'homme le plus puissant.
Allemagne toujours.
C'est justement parce qu'il considère que l'Allemagne est peut-être trop puissante.
Ah, trop puissante, d'accord. Le Danemark, vers la fin de l'argent liquide. Tiens, c'est étonnant ça.
Oui, et selon les informations relayées par l'agence de presse britannique Reuters, je cite, au Danemark, les restaurants, les stations-service et les magasins de vêtements pourraient avoir le droit de refuser les paiements en cash dès janvier 2016. En allégeant les procédures administratives, cette idée stimulera la croissance économique du pays. Mais côté consommateur, ça n'est pas une révolution, puisque seulement un quart des achats au Danemark se font désormais par liquide ou par chèque, contre 80% en 1990.
Charles, c'est intéressant ça, vers la fin de l'argent liquide.
En Belgique, ils essaient de le limiter, et il y a deux corps de métier qui sont montés au front, les diamantaires d'Anvers et les antiquaires.
D'accord.
Ah, je pensais les restaurateurs.
Les restaurateurs. Alors maintenant, ils mettent des caisses, ils surveillent.
Ouais, en Belgique, en fait, pour les restaurateurs, c'est fini parce qu'ils ont fait une sorte de caisse enregistreuse qui est directement rattachée aux déclarations fiscales.
C'est efficace. La SNCB, tiens, j'aimerais bien avoir votre avis, l'ASU, la Société Nationale des Chemins de Fer Belge, attaquée en justice potentiellement pour ses grèves.
Et c'est une première en Belgique, comme le souligne le quotidien belge Le Soir, je cite, Testacha, une association de défense des consommateurs, veut réclamer à la SNCB un montant forfaitaire de 35 € par personne, soit l'équivalent de 5 € pour un aller-retour multiplié par les 7 jours de grève que le rail aura connu ces derniers mois. Testacha estime que 700 000 voyageurs sont concernés par sa demande de dédommagement pour un préjudice collectif total de 24,5 millions d'euros.
C'est une bonne idée, selon vous, Rachida Dati, ça, d'une class action, un recours collectif contre les chemins de fer, à cause des grèves, ou de manière générale, contre les grévistes.
Quand les grèves sont souvent répétées, il y a quand même des gens qui bossent là-dedans et des gens qui, je peux vous dire, dont les employeurs ne considèrent absolument pas le motif de la grève comme étant un cas de force majeure. Donc moi, je trouve pas ça stupide que les class actions servent à pouvoir indemniser des gens qui travaillent et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre le train et les transports collectifs. À la fois, on vous dit dans les zones urbaines, on veut plus de voitures. Prenez les transports en commun, mais quand vous avez comme ça des difficultés de transport, je trouve que c'est pas absurde
Charles,
de pouvoir demander des indemnisations.
C'est une bonne chose.
J'ai tout à fait favorable.
Oui.
Bah oui, parce que je suis concerné et donc à chaque fois qu'il y a une grève, je suis obligé soit de marcher, soit de prendre mon vélo, ce qui est suicidaire à Bruxelles. Et donc à ce titre-là, si je récupère 25 € par jour de grève, je finirai l'année riche.
Voilà, merci Pauline Armandet pour votre revue de presse. Merci Charles de Massilly de la Fondation Robert Schuman. Toujours un grand plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée. Donc on l'a vu, hein, vos stats. Elles sont bonnes aussi, hein,
ouais,
ici au Parlement. 92%.
Hey.
Je tords le cou.
Soyez
je
sympa.
Tords. Mais je suis sympa, 92%.
Oui, très bien.
Allez, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
On conclut. C'est qui votre invité?
La semaine prochaine, notre invité, il s'est inspiré de votre travail pour écrire son ouvrage, Thomas Piketty, qui sera à Bruxelles la semaine prochaine et qui a accepté notre invitation. Il participera à 500 millions d'Européens. Rendez-vous le week-end prochain. On sera samedi à 11h, dimanche 21h. Bonne fin de week-end à tous. À l'écoute, évidemment, de BFM Business.
500 millions d'Européens. L'émission qui va voir ailleurs, uniquement sur BFM Business Radio.